Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux, et aujourd'hui, une fois de plus, je me retrouve à Maritsou en compagnie du Père José pour continuer notre lecture cursive de l'Évangile de Jean. Nous en sommes au procès de Jésus et, souvenez-vous, au chapitre 18, Jésus est arrêté et puis il comparaît devant les autorités juives. Et tout ce récit que nous avons déjà commenté est structuré entre le dedans et le dehors. Le dedans, c'est la confrontation de Jésus avec les autorités juives. Et le dehors, eh bien, c'est une cour où il fait très froid, où chacun se protège comme il peut, et où Jean et Pierre se sont introduits. Et là, avec une certaine audace, et puis Pierre, malheureusement, vous vous en souvenez, est rattrapé par sa couardise et renie son maître trois fois. Et ensuite, Jésus va être transféré, il va être transféré devant les autorités romaines. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Et en fait, ce récit est structuré un peu de la même façon entre le dedans et le dehors. Dehors, c'est la foule haineuse, et de plus en plus haineuse d'ailleurs, nous allons le sentir au fil du récit. Et dedans, c'est la confrontation entre Jésus et Pilate. Et puis, il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est que le récit sera rythmé par la vie de Pilate. Quatre fois, il dira « Je ne vois en cet homme aucun motif de condamnation ». Autrement dit, Pilate, qui va devenir un personnage important ici, Pilate résiste à cette haine et puis à un moment donné, eh bien, il va céder. Nous allons entamer ce procès devant Pilate, mais Père José, vous voudriez souligner à quel point ce récit de la Passion et de la Résurrection, est un récit en fait très ancien.
C'est même, je crois, le plus ancien document, la trace du plus ancien document qui sert de base au récit évangélique. Je crois que après l'événement Jésus, la première diffusion de cet événement a été faite par ce récit qui est un résumé, un condensé, étonnamment sobre d'ailleurs, mais essentiel, et qui a servi de base à la rédaction des évangiles pour plus tard. Bien sûr, le récit du quatrième évangéliste est probablement déjà lui-même un résumé du texte de Marc, par exemple. Le texte de Marc, beaucoup plus circonstancié, et Jean, volontairement, s'en tient à la racine des faits. Il y a un respect du fait brut, avec un petit souci, quand même, de le référer à l'Ancien Testament. Le fait est un accomplissement, et ça, j'en tiens à le souligner, brièvement, mais nettement.
Et vous semblez dater ce récit primitif des années 35-40, oui, donc oui. très vite après la mort et la disparition de Jésus.
C'est ça, et c'est le premier récit qui a circulé comme écrit. Nous voyons la trace d'un document ici, et autour duquel s'est élaboré alors tout l'évangile.
Alors que l'évangile de Jean, rappelons-le, est daté par les spécialistes entre 90 et 100 à peu près.
Exactement. Oui, mais Jean a tenu à conserver le caractère archaïque de ce récit, qui tranche un peu sur l'ensemble de l'évangile.
La concision de ce récit est d'ailleurs la raison de sa force, justement, que nous allons essayer de commenter pas à pas. Je reviens donc au procès devant Pilate.
Oui.
Je rappelle que tout est structuré entre dedans et dehors,
oui,
et est rythmé aussi par les affirmations de Pilate, selon lesquelles il ne voit en lui aucun motif de condamnation. Alors ici, la première partie, jusqu'à l'épisode de Barabbas.
Oui.
Je lis à partir du verset 28 au chapitre 18, bien entendu. Cependant, on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent « Si cet individu n'avait pas fait le mal, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit alors « Prenez-le et jugez-le vous-même, suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra donc dans la résidence, il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, ils se mirent à crier, « Pas celui-là, mais Barabbas !» Or, ce Barabbas était un brigand. Première partie du procès de Jésus, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et il est très intéressant de voir ici, Père José, que les Juifs vont répondre à un moment donné, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. »
Oui.
Donc la mort est décidée.
Oui.
La sentence est déjà prononcée.
Tout à fait. Jésus est perdu depuis déjà un certain temps, depuis que les grands prêtres ont décidé sa mort. Et il y a un certain temps qu'ils en cherchent l'occasion.
Alors il y a un grand thème ici, Père José, c'est le roi. Es-tu le roi des Juifs ?
C'est ça. Et je crois que sur ce thème, le récit va broder pas mal. Tout le problème du statut, plus que du statut, du pouvoir réel de Jésus va être questionné. Au nom de quel pouvoir agit-il ? Lorsque Pilate lui dit « Es-tu le roi ? Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus va alors passer à un autre plan et dire « Mais mon royaume n'est pas d'ici, n'est pas de ce monde. Il est d'ailleurs, l'ailleurs ici déjà. » Et alors il introduit ce thème nouveau. Je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. Et alors, cette réponse hésitante ou désabusée de Pilate, mais qu'est-ce que la vérité ? Est-ce du scepticisme ou une question véritable ? Mais alors, en tout cas, Pilate, durant ce premier dialogue, est de plus en plus troublé, perturbé, hésitant, incertain. Et Pilate sort alors du prétoire pour retrouver au dehors les Juifs et leur dit une seconde fois, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Ce qui est intéressant ici, Père José, c'est que, conformément à son habitude, Jésus nous transporte souvent sur un autre plan. Oui. Ma royauté n'est pas de ce monde. Et cela me fait penser à quelqu'un qui apparemment n'a rien à voir ici. C'est Henri Corbin, qui est un des grands traducteurs de toute la sphère perse et qui a proposé au monde un très beau terme qu'ils appellent l'imaginal. Et l'imaginal est justement ce lieu qui dépasse véritablement et l'intuition et le rationnel et qui permet justement d'entrer en contact avec l'invisible, en quelque sorte. Jésus est souvent quelqu'un qui provoque un décalage et qui manifestement touche Pilate.
Pilate est tout à fait désorienté, il perd son orient. Tout au long de ce récit et de ce qui va suivre, Pilate va essayer, résister aux Juifs, mettre tout en œuvre pour essayer de déculpabiliser Jésus. À quatre reprises, on dit que Pilate ne trouve rien, aucun motif de condamnation. Le terme revient quatre fois.
Alors face à une foule, il a recours à une sorte de subterfuge. Cette proposition par rapport à Barabbas, c'est au fond quelque chose qui parle à une foule, une foule qui est véritablement empoisonnée par ce qu'on appelle le poison grégaire. Ce n'est pas mal vu finalement, c'est un langage qui peut plaire à une foule et ça ne fonctionne pas.
Non, ça ne fonctionne pas. Non, 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 non. Pilate se heurte à une haine déjà existante au début, mais croissante. La haine s'enracine et se propage avec une violence tout à fait impressionnante. Mais à la parole de Jésus, Pilate répond quand même « Qu'est-ce que la vérité ?» C'est une question qui peut avoir plusieurs sens, mais qui reste toujours actuelle pour nous. Quelle vérité cherchons-nous et quelle vérité trouvons-nous en lui? Mais alors, Pilate retourne vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Et puis, de fait, le subterfuge de dire « Mais je peux vous libérer quelqu'un. » Mais il se trompe, évidemment, de proposition.
C'est là-dessus que nous allons faire une petite pause musicale, Père José, avec Joseph Haydn, un extrait des 7 paroles du Christ en croix, dans la version oratorio. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive et nous en sommes au début du chapitre 19. Nous sommes là dans le procès devant Pilate. Pilate qui est persuadé de l'innocence de Jésus, qui dit plusieurs fois qu'il ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Il a déjà essayé un premier subterfuge avec la proposition de relâcher le roi des Juifs. Et finalement, la foule qui se devient de plus en plus contaminé par le poison de la haine, réclame Barabbas. Or, dit l'Évangile, ce Barabbas était un brigand. Au début du chapitre 19, nous allons voir un deuxième subterfuge. Il s'agit, curieusement, de châtier Jésus. Est-ce vraiment pour éteindre la haine? Eh bien, ça va avoir probablement l'effet inverse. Je lis au début du chapitre 19 cet épisode de la flagellation. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux Juifs « Voyez, je vais vous l'amener dehors, vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme ». Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Les Juifs lui répliquèrent « Nous avons une loi et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Il regagna la résidence et dit à Jésus « D'où es-tu, toi ?» Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate dit alors « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier et ils disaient « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit asseoir sur l'estrade, à la place qu'on appelle Lithostrotos, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ». Mais ils se mirent à crier « à mort, crucifie-le » Pilate reprit « Me faut-il crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Telle est la fin du procès devant Pilate, père José, mais il y a ici un deuxième subterfuge. Après avoir proposé la libération de Jésus, mais finalement c'est Barabbas qui est réclamé, ici on le fait fouetter. Est-ce véritablement un subterfuge pour éteindre la haine? Que fait Pilate ici?
Pilate essaye de leur donner un premier consentement en disant peut-être que, en le flagellant, en le tourmentant, je vais apaiser un peu leur haine. Et ce qui me frappe aussi, c'est que tout ce passage que vous venez de lire tourne toujours autour du thème « le roi ». Et que la première variation autour de ce thème, c'est celle d'une dérision. Les premiers à répondre à cette affirmation de Jésus sont les soldats qui s'amusent et prennent en dérision cette affirmation et lui pose une couronne d'épines et le revêt d'un manteau de pourpre. Donc Jésus va être déguisé en roi. Mais évidemment que ce subterfuge n'amène aucun apaisement, au contraire. Il ne fait qu'exciter la haine de la foule.
C'est vraiment à la fois cruauté et vulgarité.
Vulgarité.
On veut vraiment l'humilier.
Oui, la dérision la plus vulgaire. Mais Pilate continue à être troublé. D'où es-tu? Donc, quel est le mystère de Jésus? D'où lui vient cette certitude étonnante? il cherche un peu, non pas à trouver la vérité, mais à découvrir la clé de cette étrange assurance qu'a Jésus.
Le silence de Jésus le trouble manifestement.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, il est impressionnant ce silence. C'est-à-dire que face à la vanité des cris de la foule et des détours de Pilate, Jésus ne peut redescendre sur ce plan. Jésus ne peut que se taire.
Et puis, après, il ne parle plus de royauté, mais il parle de pouvoir. Oui. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir.
Oui, sûrement. Oui, c'est thème royauté et pouvoir s'entremêlent. Et c'est le mot de pouvoir, d'ailleurs, qui va faire tourner l'épilogue, puisque c'est en repartant du thème du pouvoir qu'on va déstabiliser, cette fois-ci, Pilate et allumer sa peur.
En effet, tout d'un coup, il transporte la question sur le plan politique. Mmh. Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme un ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Mmh. Et là, c'est terminé. Les choses sont pliées, malheureusement.
Et alors Pilate, une dernière fois, dit « Voici votre roi ». C'est extraordinaire aussi qu'il reprend ce thème-là en conclusion. Et c'est ce mot qui déchaîne la haine terminale. À mort, crucifiez-le. Crucifiez votre roi. Et alors les grands prêtres répliquent: nous n'avons d'autre roi que César.
Ce qui est tout de même un des sommets dans la flagornerie, Père José. Oui. Ici, ils disent exactement le contraire de leur pensée, j'imagine. Oui, ils ne sont pas.
Évidemment. Oui, ils sont. C'est de la duplicité intégrale.
Alors, il y a quelque chose de très important, me semble-t-il. C'est que quand Jésus a été fouetté, Pilate leur présente un Jésus défiguré, humilié, et il dit « Voici l'homme ». Première flambée de haine. Et puis ici aussi, « Voici votre roi » et de nouveau cette flambée de haine. Et ça me fait penser à ce mot de Aldous Huxley qui dit que « Hélas, l'homme s'acharne sur celui qui est déjà par terre, celui qui est déjà humilié, et il y a, hélas, et ça devient ici assez évident, une sorte de surcroît de haine quand on voit déjà quelqu'un qui est humilié et écrasé.
Oui, 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 il y a une progression sans aucun effet dramatique, mais qui quand même révèle un art de la rédaction chez l'évangéliste. La progression de ce drame est tout à fait étonnante, et dans sa sobriété.
C'est ce que nous allons voir dans la prochaine émission avec le récit étonnamment concis et sobre de la crucifixion. C'est là-dessus que nous allons terminer cette émission pour aujourd'hui, Père José, de nouveau avec Joseph Haydn, un extrait des 7 paroles de Jésus sur la croix. Au revoir à tous et à bientôt.